À cause de la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous, de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. C'est avec ces mots que commence la deuxième épître de Jean, pour proclamer la joie de vivre par l'Évangile. Alors que cette joie soit la nôtre ce matin, et puissions-nous la partager les uns avec les autres et autour de nous, afin qu'elle se multiplie. Amen. Nous louons le Seigneur. Ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité quand tout ne ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et nous chanterons au psaume 25, les strophes 1 à 4.
Thank you.
Nous entendrons la volonté de Dieu pour nos vies à travers quelques versets du livre du prophète Ésaïe au chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que j'ai façonné dira ma louange. Amen. Nous nous présentons devant Dieu tel que nous sommes. Nous entrons dans la prière. Délivre-moi de mes propres fantômes. Délivre-moi du naufrage et de la noyade. Délivre-moi de la confusion de mes jours, ô mon Dieu. Car la nuit est bien noire et bien aveugle est ton pèlerin. Je t'en prie, tiens ma main. Délivre-moi du désespoir. Ranime à ton feu la flamme vacillante de mon courage. Réveille mes pauvres forces engourdies dans leur sommeil. Et ne me laisse pas m'attarder à ressasser mes pertes. Fais chanter la route. Fais chanter le chemin. Pour que chaque pas accompli me parle de demain et de la maison là-bas, au bout du chemin. Car la nuit est bien noire. Et bien aveugle est ton pèlerin. Je t'en prie, tiens ma main. Amen. Le poète Éluard écrivait « Il y a des mots qui font vivre, ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, le mot courage et le mot patience, le mot frère et le mot camarade. et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Aujourd'hui, que le mot pardon nous fasse vivre, c'est le Seigneur qui nous le dit, à celui qui a soif, il donnera l'eau de la source de la vie, et il la donnera gratuitement. Et nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance que traversant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toute chose nouvelle. Amen. Voici le moment de confesser notre foi. Oh, je vous invite à vous lever. Nous croyons au Dieu de l'humanité, de l'univers tiré du chaos, mouvement et réflexion, joie de l'existence. Oui, Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de l'homme, l'humain, image de Dieu et sa ressemblance. L'humain, esprit et poussière, misère et orgueil. Abel et Caïn, meurtre et sang versé, écoulement des siècles, tumulte des nations. Dieu de l'humain, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu des muets et des insignifiants, des bâtisseurs de bâtiments jamais finis. Dieu d'humain qui, comme nous, espère la paix sur la terre. Oui, Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de Jésus, le Fils, l'un d'entre nous, proche de nous et présent, accueillant, guérissant, libérant, ressuscitant et crucifié sur les croix du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu de Jésus, Dieu de l'Esprit, nous nous tournons vers toi. Amen. Place. Et avant d'ouvrir la Bible pour lire dans les Écritures, je vous invite à prier. Notre Dieu, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier, appeler et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de Jésus le Christ. Par ton Saint-Esprit, rend ses paroles vivantes en cette heure et qu'elle laisse passer à travers elle pour nous ta parole. Amen. Et nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui de vous qui est sans péché, qu'il lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » D'abord, il y a les pierres. Des pierres pour lapider une femme. Des pierres taillées dans des textes de la loi. Des textes de la loi devenus pierres. Pierre de mort. Par exemple, cette fois-là, Deutéronome 22, verset 22, « Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Tu élimineras ainsi d'Israël ce qui est mauvais. » Mais ça aurait pu être Lévitique 20, verset 10, ou d'autres. Bien d'autres versets, bien d'autres textes de la Bible peuvent ainsi être transformé en pierre qui tue, quand il s'agit d'éliminer ce qu'on a désigné comme impur, comme fautif, comme coupable. Et c'est comme si les tables de la loi avaient été débitées en cailloux, en pierre, pour se débarrasser là de celles ou de ceux qui transgressent, mais également se débarrasser de celui qui remet en cause l'idéologie des scribes et des pharisiens. Et par deux fois déjà, l'évangile de Jean a indiqué le projet de ces hommes de tuer Jésus, une fois parce qu'ils disaient que Dieu était son Père, une autre fois parce qu'ils disaient qu'il était le pain descendu du ciel pour la vie éternelle. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Ils disent cela pour éprouver Jésus, précise l'évangile de Jean, pour le tenter, pour lui tendre un piège. Et cette parole, cette question n'en est pas vraiment une, c'est déjà une première pierre lancée sur Jésus. Au choix, lancée vers lui pour qu'il la ramasse, pour qu'il s'en saisisse, la ramasse et la jette sur la femme. Ou lancée vers lui pour lui signifier ce qu'il risque lui-même s'il ne se sert pas de cette pierre-là. c'est le piège des pierres. La femme est adultère, prise en flagrant délit, c'est indiscutable. Et il est tout aussi indiscutable pour les scribes et les pharisiens que Jésus est infidèle à la foi d'Israël, telle que eux la comprennent et la mettent en pratique. Et les zélés champions de la loi, de la foi du peuple, sont bien certains d'avoir raison. Moïse a dit, la loi a dit, alors les pierres ponctuent. Les pierres de la lapidation sont justifiées par leur assurance et ce bon droit. Mais croire, ce n'est certainement pas avoir raison. Croire, ce n'est pas s'assurer sur ce qui serait immuable, texte, dogme, idéologie ou interprétation. Vouloir avoir raison quand il s'agit de croire, quand il s'agit de foi, c'est s'enfermer dans une citadelle de préjugés et de jugements, une citadelle toujours assiégée par ceux qui croient autrement. Vouloir avoir raison en matière de foi, c'est entasser soigneusement des pierres à lancer, c'est préparer ses projectiles. Chacun de nous a de bonnes raisons de croire ce qu'il croit et de penser ce qu'il pense. Mais ce ne sont pas ces bonnes raisons qui font que nous avons raison. Quand il s'agit de foi ou de croire, vouloir avoir raison en matière de foi ou de croire, qui peut dire qu'il a raison ? Avons-nous si souvent raison ? Nous ne le saurons pas. Et c'est peut-être justement cela de croire, de ne pas savoir si on a raison ou pas. Vouloir avoir raison, c'est désigner des adversaires, ceux qui ont tort, ceux qui doivent changer d'avis, ceux qui doivent être convaincus, ceux qui doivent se convertir. Ainsi, celui qui pense avoir raison ne dialogue pas, il ne rencontre pas, il n'accueille pas. Vouloir avoir raison, c'est camper sur une position de combat en brandissant des textes, des lois, des doctrines, comme on brandit des armes, et lancer des pierres qui tuent. Parce que la raison qu'on a, qui est peut-être une bonne raison, mais est confondue avec la vérité et la vérité de Dieu. Funeste dérive qui révèle que vouloir avoir raison, c'est masquer l'angoisse de ne pas pouvoir se justifier soi-même. Alors les hommes, les scribes et les pharisiens pressent Jésus de choisir son camp. Le leur, mais c'est le camp de la fermeture, de l'exclusion, de la condamnation. Le camp du centralisme, de la verticalité du pouvoir. Le camp des dogmatismes, de l'égocentrisme. Même le camp du machisme, le camp de la peur. Et s'il ne choisit pas ce camp-là, eh bien Jésus aura tort, alors eh bien il pourra être disqualifié et éliminé. Les pierres sont un piège. Pour Jésus, la tentation de disposer de la vie d'une femme pour sauver la sienne. Mais les pierres sont un piège pour tous les croyants. La tentation de disposer des textes de loi, des textes de la Bible, des textes d'Église comme d'un pouvoir. Et les hommes du récit y ont déjà cédé de tout leur cœur de pierre. Alors Jésus choisit la terre. Pas d'affrontement, pas de bataille d'arguments, pas de discours affûtés. Jésus revient à la terre, leur terre, celle de la femme. Le terreau de l'humain, le terreau de tout humain, d'où l'erreur, l'errance et le doute ne sont jamais éliminés. Il n'est pas d'humain de pierre, pur et dur. Il n'est d'humain que de terre, friable, légère, poussiéreuse. Et Jésus qui se baisse au plus près de la terre, y écrit avec son doigt, un écrit qui s'efface, un écrit qui n'est pas immuable, qui peut être réécrit ou pas, un écrit qui ne peut pas être solidifié, rien qui puisse servir de projectile de mort. Jésus choisit la terre, l'éphémère de l'humain, la terre, la fragilité, la chair, et pas les pierres. Cette écriture sur la terre, c'est un peu déroutant pour nous. On peut imaginer tellement de choses à propos de ce que Jésus écrit sur la terre, sans jamais pouvoir nous dire ou pouvoir dire « J'ai raison, c'était ça ». C'est déroutant, mais c'est justement un autre chemin qu'emprunte Jésus face à la voie toute tracée des hommes qui veulent avoir raison, qui condamnent et qui tuent. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Et personne ne répond. Personne ne conteste. Personne ne discute. Comme si tous étaient retombés sur terre, du haut de leur tas de pierres, du haut des textes de la loi, du haut de leur prétention à avoir raison, tous retombés par terre, dans le terreau de leur condition d'humain. Et c'est cela l'autorité de Jésus. Redonner le sens de l'humain à ceux qui l'avaient perdu, comme à ceux qui en étaient privés. Ésaïe écrivait « Un chemin tracé dans le désert, des fleuves qui coulent dans un lieu sec. » L'autorité de Jésus, ce n'est pas tant du solide que du vivifiant. Le choix de la terre plutôt que le piège des pierres. Car cette parole de Jésus, ce n'est pas une pierre, c'est un appel, un rappel que l'humain est humain quand il cesse de prétendre que certains le sont moins ou ne le sont pas. Que l'humain est humain dans la fidélité à la terre dont il est fait, dont tous sont faits, cette terre fragile, friable, poussiéreuse, et qui ne tient, raconte le livre de la Genèse, qui ne tient qu'à un souffle, le souffle de Dieu qui passe en Jésus, qui le traverse pour aller effriter et briser les cœurs de pierre. Et l'autorité de Jésus tient à cela, à faire passer ce souffle à travers lui, à travers les actes et les paroles, les signes et les discours, pour que les hommes et les femmes se redécouvrent humains de la même terre, et qu'il renonce à juger et à condamner au nom de Dieu. L'autorité de Jésus, c'est cela, faire passer le souffle pour que les hommes et les femmes renoncent à prétendre s'affranchir de la terre, qu'ils renoncent à disposer d'autrui, de sa vie, de sa conscience, qu'ils renoncent à disposer des textes de loi, des écritures, pour dévaloriser qui que ce soit ou pour leur propre justification. Et il y a bien des pièges. D'autres situations, apparemment sans autre alternative que la condamnation, l'exclusion, l'humiliation de quelqu'un ou de quelques-uns. Des situations dont il n'est possible de sortir que grâce à cette autorité venue du souffle de l'Esprit, venue de Dieu, en la laissant couler en nous comme un fleuve dans un lieu sec. Car c'est elle qui permet cette merveilleuse possibilité de ne pas laisser faire l'injustice, la violence ou le mal. L'autorité de Jésus ne consiste pas en condamnation, mais en ébranlement, en dislocation, en décomposition, en désintégration des pierres. Et le choix de la terre, ce n'est pas une facilité, ce n'est pas non plus une technique de non-violence. Ce choix représente la fidélité et la confiance constitutive de la foi au Dieu qui crée à partir de la friable, fragile et poussiéreuse terre. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Ce n'est pas une autre loi ni une loi de plus. C'est l'essence de la loi en tant que chemin de vie, chemin d'humanisation de ces êtres fragiles et friables qu'ils sont tous, que nous sommes tous. La femme est adultère, et les hommes sont infidèles. Infidèles à l'humanité à laquelle ils ont été appelés par le souffle déposé dans la terre dont ils sont faits. Alors sur la terre, dans le terreau de l'humain vivifié, Jésus et la femme se parlent, de véritables paroles qui ne sont pas des pierres. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de ces catégories dont les humains infidèles à la terre sont si friands, adultères ou voleurs, impies, escrocs, impurs ou que sais-je. Ces catégories qui font oublier la terre commune. Une catégorie, ça dévore toujours celui ou celle qui est jetée. Et les adjectifs engloutissent les noms communs comme les noms propres. Mais cela n'a plus cours sur la terre où sont debout face à face Jésus et la femme. Va et ne pêche plus. Peut-être dans la continuité de ce que les scribes et les pharisiens ont pu comprendre qu'ils n'avaient pas à utiliser une femme pour condamner un homme, qu'ils n'avaient pas à utiliser un texte de loi pour condamner cette femme. Eh bien toi, n'utilise personne, n'use de personne, ni de toi, ni d'un autre, parce que vous êtes fait de la même terre, fragile, et que vous êtes happé à laisser passer le souffle qui vous fait devenir humain. Amen. Alors j'ai fait une erreur, j'ai oublié un cantique. Si on peut le chanter maintenant. Merci Frédéric. Le 266.
Alors, je voulais tout d'abord, bien sûr, remercier très chaleureusement le pasteur Dominique Hernandez d'être venu accompagner ce culte ce matin. Nous vous attendions avec impatience et je crois que notre attente n'a pas été déçue puisque vous avez su toucher la corde sensible du foyer de l'âme en prêchant sur le fait de savoir que la foi n'a pas toujours beaucoup à faire avec les doctrines et les dogmes. Et cette comparaison entre la pierre et la terre, je pense qu'elle va pouvoir nous inspirer pendant ces quelques jours qui vont suivre. Merci infiniment pour cette belle prédication. Alors nous avons quelques annonces aujourd'hui, c'est le début des vacances scolaires, donc il n'y a pas beaucoup de groupes en activité, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur les groupes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Je voulais vous parler de trois choses importantes que nous allons avoir dans les semaines à venir. D'abord, le mercredi 16 mai, comme vous le savez, nous avions demandé à Vincent Hubach de nous faire une conférence sur la réforme et les raisons de la réforme, conférence qui sera accompagnée par de nombreux morceaux d'orgue de la réforme. Il fera cette conférence en compagnie de Bernard Cotteret, que nous connaissons bien, et qui vient souvent également parler au foyer de l'âme. Donc, la réforme en France, les raisons du succès, je vous invite tous à venir le mercredi 16 mai à 20h dans le Temple, pour écouter cette conférence. Et puis, autre nouveauté, nous avions parlé du lancement d'un ciné-club, Ciné-club qui a été pas mal organisé par Didier You. Où est-il Didier? Je ne le vois plus. Il est là. Voilà. Alors la première séance du Ciné-club aura lieu le mercredi 30 mai à 20h. Et nous projetterons Le Lion et le Vent, un film de John Milius avec Sean Connery et Candice Bergen, s'il vous plaît. La projection sera suivie d'une discussion et d'un encas tiré des sacs. Et nous pensons également éventuellement à faire une prochaine projection de film dans le temple, accompagné également, enfin avec un film muet accompagné par l'orgue pendant le film. Ça, ce sera pour la prochaine fois, n'est-ce pas, Didier? Non, plus tard. Voilà. Et puis enfin, je voudrais que vous pensiez également tous à noter sur vos agendas la date du dimanche 24 juin, qui sera la date du culte d'adieu à Vincent Hubach. Donc je voudrais que nous soyons ce jour-là, bien entendu, le plus nombreux possible. Il y aura un déjeuner qui suivra. Et d'ores et déjà, nous allons ouvrir une cagnotte pour le cadeau que nous ferons à Vincent pour son départ. Et si vous voulez envoyer vos dons pour cette cagnotte, en mettant bien entendu que c'est pour le départ de Vincent Hubach, eh bien, on fera une petite cagnotte séparée, bien entendu, de vos offrandes nominatives. Voilà, merci à tous, et donc je vous laisse avec... Pardon ? Les tables du CASP ? Ben venez, allez-y.
Donc, comme vous le savez, depuis 3 ans maintenant, je prends pour la paroisse en charge les tables du CASP, où on accueille 3 dimanches dans l'année des personnes en situation de difficulté sociale qui nous sont envoyées par le CASP. On les reçoit au déjeuner du dimanche. Et donc cette année, les dates choisies sont le dimanche 22 avril et le dimanche 8 juillet. Donc,
8 juillet et 22 avril. Ah oui, 22 avril.
C'est la semaine prochaine. Donc j'ai envoyé un mailing à pas mal d'entre vous qui participent déjà à cet événement. Si d'autres personnes sont intéressées pour nous aider, même partiellement, les courses, la mise en place et déjeuner avec nos convives, n'hésitez pas à venir me voir. Merci.
Y a-t-il d'autres annonces des uns ou des autres? Je vous remercie. Alors oui, c'est maintenant le moment de l'offrande. Désolée, j'ai oublié la principale annonce. Et comme d'habitude, nous donnerons tous avec joie en chantant un cantique. Il y a un cantique à ce moment-là ou c'est le... Oui, c'est pendant le cantique, le 258. On chante pendant la offrande.
Voilà. Ah, j'avais pas du tout compris ça, je crois que c'était un peu...
Exactement.
Thank you.
Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, dans le flot courant du temps et des paroles, de ce qui est fait, de ce qui est fui, voici un moment pour venir à toi, aller vers les autres. Nous intercédons. Nous ouvrons nos bras, nous ouvrons nos mains. Nous nous tournons vers toi afin de recevoir tout ce que tu nous donnes de grâce, de joie, de paix, et qui nous portera au-delà de nos peurs, de nos réactions, de nos crispations, vers la confiance et l'espérance. À travers et au-delà de ce qui en nous alimente la tentation de l'indifférence, de l'ignorance, de l'inconscience, que ton souffle vienne réveiller le sens, le goût et l'envie d'être vivant. Éternel, notre Dieu, nous intercédons. Nous ouvrons nos bras et nos mains pour rejoindre ceux qui, sur notre chemin, sont dans le besoin. Besoin de pain, de tendresse, besoin d'écoute, de parole, de cette présence humaine dans laquelle tu es toi-même présent. Que ton souffle anime notre être au monde, notre terre, celle dont nous sommes faits, qu'il l'anime dans la compassion, afin que nous puissions traverser les frontières qui nous rendent étrangers, absents les uns aux autres. Éternel, notre Dieu, nous intercédons. Nous ouvrons nos bras et nos mains pour nous mettre en travers de ce qui, en nous et autour de nous, déchire le tissu de l'humanité en lambeaux, selon les nations, les religions, les cultures, les revenus, les productions, n'importe quoi d'autre. Face à ce qui attise la haine, le rejet des différences et des différents, que ton souffle nous inspire des paroles et des actes de résistance et de protestation. Que ton souffle nous inspire des paroles et des actes responsables et fidèles à ta parole. Des actes et des paroles qui, dans le quotidien ou l'exceptionnel de chaque jour, feront de nous des acteurs de l'œuvre de création. Que ton souffle nous tienne en communion avec toi, les uns avec les autres, et avec les croyants de tout temps et de tout lieu. Que nous disposions tout entiers dans cette prière que Jésus le Christ nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.